sur le Move.
Sandrine Vendel est avec nous, elle fait des heures sup. Bonjour.
Oui.
Sandrine est donc en avance dès 13h31, car elle est venue pour nous faire un portrait, nous tirer un portrait, le portrait d'un chercheur.
Oui, voilà, c'est ça, je voulais vous parler d'Olivier Ramaret. En fait, pour tout vous dire, j'ai un petit faible pour le monde de la recherche, c'est-à-dire que dans un univers comme le nôtre, où tout va à une vitesse folle, où tout doit être économiquement rentable, tout de suite, sous peine de disparition, il y a des gens, ils sont 13 000 à peu près au CNRS en France, qui luttent comme ils peuvent pour faire avancer la science. Alors, bien sûr, il existe quelques petits privilégiés qu'on voit régulièrement dans les médias, mais enfin, dans la majorité du temps, on n'en entend absolument pas parler. On ne soupçonne même pas les domaines dans lesquels ils travaillent. Et donc, mon idée n'est pas de parler des problèmes que rencontrent les chercheurs en France en ce moment, même si ce serait un sujet assez intéressant. Mon idée était de faire un petit coup de projecteur sur l'un d'entre eux et de voir ce qui se passe dans la tête d'un chercheur.
Alors, il s'appelle donc Olivier Ramaret, si j'ai bien retenu. C'est qui ce garçon ?
Alors Olivier Ramaret a 46 ans, il est né à Paris dans un milieu ouvrier. Alors pour vous situer, c'est à la Celle-Saint-Cloud, entre les usines Dassault et celles de Renault. C'est bien ouvrier. Alors donc aujourd'hui, il est chargé de recherche au CNRS à Lille, en mathématiques. C'est une espèce de grand mec qui est habillé très simplement. Il n'a même pas de lunettes.
Mon Dieu !
Depuis qu'il porte des lentilles, c'est le progrès de la science. Il a donc fait des études de mathématiques à Normale Sup. Il a fait un doctorat à Bordeaux, une petite escale à l'université de Princeton aux États-Unis, qui est quand même la troisième université au monde. C'est là que sortent les médaillés de Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel.
Le prix Nobel de maths. Ouais.
Voilà. Et puis après, il a fait une escale à Nancy. Et depuis 10 ans, il est à Lille. Alors, il habite un grand loft dans lequel il partage son temps entre l'université et ses calculs qu'il fait du matin au soir, parfois dans son appartement. Et on ne peut pas dire qu'être chercheur, c'est le repos de l'esprit.
Quand j'étudie un problème, ça te prend entre 3 mois et 3-4 ans. Donc j'en étudie plusieurs simultanément. Il y a 80% du temps où on est dans l'erreur. Je dirais 50% du temps dans lequel on est dans le doute. Là-dedans, la moitié dans lequel on est en doute personnel sur ses capacités. C'est-à-dire que c'est un métier dans lequel on doute quasiment tout le temps.
Oui, voilà, c'est ça. Olivier Ramaret passe sa vie à se poser des questions, il passe sa vie à douter. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que la France lui a décerné un magnifique diplôme où il est mis « Je suis un homme intelligent », il ne peut pas s'empêcher certains jours de se lever le matin en se disant « Je suis un bon à rien ».
Si c'était que certaines journées, ce serait de la joie. Ça dure 2 mois, 3 mois. Une fois qu'on est bloqué sur quelque chose, une fois qu'on a travaillé pendant 3-4 mois et qu'on n'arrive à rien ou que ce qu'on croyait possible ne l'est pas, on se remet en cause profondément, oui, bien sûr.
Ah bah oui, tout de même, c'est pas que de la joie, hein, mais il y a jamais de période d'euphorie dans la vie d'un chercheur quand
mais
il trouve
si,
un truc.
Si, bien sûr, parce qu'il y a des moments où il trouve quelque chose. Alors, dans ces moments-là, c'est le bonheur.
On sourit, tout va bien, ça dure pas très longtemps parce que ce qui nous intéresse, c'est de chercher. Ce qui motive les gens qui font de la recherche, c'est vraiment de découvrir de nouveaux territoires. Donc cette partie d'euphorie, heureusement, ne dure pas trop longtemps. Mais oui, il y a tous les 6 mois, tous les ans. Il y a 15 jours, 3 semaines de temps à autre où on se sent bien et le monde est léger.
Donc en fait, vous êtes voué à être malheureux, quoi.
Non, on n'est pas malheureux. On est en train de chercher des choses. On est dans l'erreur, on est comme quelqu'un qui est sur un chemin. C'est une façon agréable de vivre pour qui a envie de vivre comme ça.
Donc voilà, Olivier Ramaret est chercheur, mathématicien spécialisé dans les nombres premiers. Alors tu sais ce qu'un nombre premier, Maëlle ?
Oui, je le sais. Je le sais, c'est un nombre entier qui est divisible uniquement par 1 ou par lui-même. Par exemple, 2 ou 5, mais pas 4, puisqu'il est divisible par 1 et par 2.
Bravo, Maëlle. Voilà, ça c'est les souvenirs qu'on en a de l'école. Mais alors, quand Olivier Ramaret nous l'explique, ça donne ça.
On sait multiplier les entiers les uns par les autres. On essaie d'inverser ce procédé. C'est-à-dire qu'on regarde les entiers qu'on ne peut pas écrire comme produit de 2 autres entiers de façon non évidente. On peut comprendre toute la multiplication sur Z à partir des nombres premiers. Je pense qu'à peu près tout le monde peut faire ce genre de choses, mais que tout le monde ne le fait pas.
Voilà, ça pourrait être la phrase du jour. Hein. Je pense que tout le monde peut faire ce genre de choses, mais tout le monde ne le fait pas. Sauf que manifestement, on a pris un petit peu de retard. À vrai dire, chez Olivier Ramaret, le virus s'est immiscé assez jeune.
La première chose que j'ai voulu faire, c'était une erreur évidemment. J'ai lu un petit article dans Science et Vie en l'occurrence, qui disait qu'on essayait de démontrer que certains nombres, grands nombres, étaient premiers. je me suis dit, mais moi je sais ce qu'est un nombre premier. Et donc j'ai essayé d'écrire quelque chose qui permettrait de démontrer rapidement qu'un nombre était premier. Ça m'a bougé pendant 6 mois. J'ai écrit des cahiers entiers, j'avais 14-15 ans. Ouais. Il y a eu des moments forts. Quand j'ai terminé ma thèse, quand j'ai su que j'avais la bonne idée pour ma thèse, j'étais un peu en train de planer. Ensuite, j'avais très peur qu'on me vole cette thèse de façon absolument névrotique. Et donc, je l'emmenais avec moi partout. Elle était toujours dans mon sac.
L'idée hyper précoce, hein, quand même.
Ah oui, oui, 14 ans, oui, c'est ça. Et encore, il ne nous parle pas d'avant, mais on ne veut pas savoir. L'idée, c'est donc de ne jamais perdre son sac, hein, on l'a bien compris. Alors, c'est vrai qu'on a tous des rêves de mômes. On se dit, quand je serai grand, je ferai ceci ou cela. Moi, par exemple, je voulais être marchande de bonbons, ça n'a pas marché. Il y en a qui veulent être pompier ou vétérinaire. Alors, Olivier Ramaret, lui, petit, il voulait faire des vêtements. C'est-à-dire, pas devenir styliste, mais devenir tailleur. Et puis, un jour, il y a eu le déclic.
Le fait que j'ai d'excellents résultats est arrivé d'un seul coup. Et donc, j'ai eu pendant longtemps peur que ça parte d'un seul coup. Je n'ai réalisé que très, très, très tard que ce que je faisais n'était pas commun. J'étais dans un collège de pauvres, disons, et je suis arrivé dans un lycée de riches. J'ai traversé la nationale. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient une bagage mathématique fait pour faire de longues études. Et donc, évidemment, j'ai rien compris pendant 2 ans. Petit à petit, ça s'est décanté. Tout d'un coup, je me suis retrouvé avec 20. J'ai pensé que c'était une erreur que j'avais dû copier par erreur sur mon voisin. Donc le suivant, j'ai eu 6. Je me suis dit, bien, ouf, je me retrouve. Et puis après, je me disais, mais non, quand même. Mais non, j'avais pas copié. Et après, bah, je suis resté avec ma moyenne à 20.
C'est-à-dire, à un moment donné, tu n'as fait que travailler.
Pendant 3 ans, je n'ai fait que travailler, oui. D'ailleurs, c'était un contrat avec moi-même. C'était une interdiction de sortir, autorisation de fumer et de jouer le samedi après-midi au flipper. C'est tout.
Ah dis donc, c'est quasiment une vie de moine. Il a eu combien au bac en maths, ce garçon ?
20, bien sûr.
Ah bah oui, d'accord. Et donc, après ?
Eh bien, comment dire ? La vie d'Olivier Ramaret s'est déroulée avec acharnement. Il l'a dit, il a énormément travaillé, mais d'une certaine manière, en toute simplicité et en toute évidence.
Par erreur, je suis rentré dans un CIO, un centre d'information et d'orientation. J'ai ouvert un magazine sur lequel, dans la page centrale, il y avait une interview de quelqu'un qui était chercheur. Et il disait, voilà, je suis chercheur au CNRS. Et j'ai regardé son parcours, j'ai vu qu'il était passé en classe préparatoire, qu'il était passé à l'ENS Saint-Cloud, et qu'ensuite il était rentré au CNRS. Donc voilà, j'avais mon plan de carrière. C'était d'autant plus facile que dans le milieu d'où je venais, on n'avait aucune idée de ce que pouvait être une ENS. Très peu d'idées de ce que pouvait être une classe préparatoire, et absolument aucune idée de ce que pouvait être le CNRS. Donc ça me semblait quelque chose de parfaitement, un plan normal.
Quel sentiment qu'on a quand on a autant travaillé et qu'on voit son nom sur une toute petite liste de gens qui sont acceptés à Normal ?
Un soulagement. Un soulagement énorme. Ben oui, c'est comme de pouvoir aller dormir, quoi. On a fini son travail, on peut aller dormir. Entrer à Normal, c'était avoir un salaire, avoir une reconnaissance, avoir l'autorisation de faire des mathématiques et même être payé pour le faire.
Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on l'écoute nous parler de son métier, les maths c'est un petit peu une compagne finalement, une sorte même d'envoûtement par moment.
C'est une passion qui à ce jour ne se dément pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Si à un moment on a vraiment besoin de travailler ou si on a des idées qui tournent en tête, comme pour toute forme d'idée fixe, une fois que les idées se mettent à tourner, on ne peut pas vraiment les arrêter. On peut essayer de faire semblant, essayer d'être en compagnie et de faire semblant d'écouter, mais quand ça tourne, ça tourne. Cette partie de là de mon travail ou de ma vie, je ne peux pas vraiment la changer. Je ne peux pas passer trop longtemps sans faire de mathématiques. C'est pas qu'il y a un manque, c'est que les idées arrivent naturellement et se présentent et que je ne peux pas m'empêcher de penser.
Voilà, dit comme ça, ça nous ferait presque aimer les maths.
Alors, je vais quand même poser la question, même si je ne l'aime pas trop, parce que moi, les maths, je trouve, au risque de te faire d'ailleurs totalement hurler, je trouve ça très beau en soi, mais quand même, à quoi ça sert tout ça ?
Alors, c'est la question qu'on lui pose le plus souvent. Mais à quoi ça sert tout ce temps que tu passes à faire des maths ? Alors, j'éviterai la réponse, c'est-à-dire que quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, mais alors, est-ce que finalement, quelque chose sert à quelque chose dans la vie ? Voilà, qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui n'est pas ? Est-ce qu'un vêtement élégant est utile quelque part ?
Des mathématiques à la philosophie.
Voilà. Mais donc, il m'a quand même répondu, ça c'est la tuile, c'est vachement compliqué. Il me dit, j'étudie les interactions entre l'addition et la multiplication et on fait presque toutes les mathématiques à partir de ces ces deux opérations, il est important de comprendre leurs liens et il a fini par rajouter « Pour moi, cela est très concret ». Alors il paraît quand même que ça sert dans les moteurs d'avions et de voitures, mais ne m'en demande pas plus. Merci.
Très impressionnant, merci beaucoup Sandrine. Donc on a compris, hein, il faut aller à l'ENS pour se passionner pour les nombres premiers et faire rouler les voitures et
ça,
faire
mieux.
Voler les avions.
Les faire rouler mieux.
Ouais, mais peut-être que du coup je vais avoir moins peur de l'avion, allez savoir. Merci beaucoup Sandrine, tout de suite c'est Joseph d'Anvers qu'on retrouve. Ça s'appelle Radio One.
Sur la route, un soleil bas. Devant nous, par la fenêtre, je jette les restes de nous. Plus rien à faire, écouter les mots d'hier qui t'ont tant fait pleurer. I don't believe the voices on radio.
De son nouvel album Rouge Fer, c'était Radio One par Joseph d'Anvers.